Alpes, on est à une époque de pionniers, puisqu'on a eu la première année, deuxième festival cette année, et l'année prochaine, il y aura un troisième festival, je présume. C'est peut-être le moment où jamais il faut s'y lancer.
La troisième édition, j'espère que je pourrai la faire en 2015. J'aimerais inviter justement les cousins du sound painting, ceux qui utilisent aussi un langage de gestes, mais qui ne sont pas forcément du sound painting pur et dur. Oui, il faut se lancer, il faut que des mécènes s'intéressent à la chose et trouvent l'intérêt philosophique, moral, de soutenir une telle manifestation. Aller au secours des pouvoirs publics qui sont endettés finalement maintenant, le pouvoir.
On l'enseigne le sound painting, maintenant ça se transmet, ce qui me semble une des grandes innovations. Je vois des conservatoires, là j'étais à votre conservatoire de Noisy-le-Sec, je vois bien dans une classe de sound painting, et je vois bien que fleurissent à droite et à gauche, du moins sur Paris au moins, des classes de sound painting.
Oui, c'est enseigné, mais pour les conservatoires, c'est très intéressant, parce que là il y a une transmission orale, très orale, des choses, qui vient combler quelque chose qui n'est pas enseigné dans la formation musicale, par exemple, ni dans les cours particuliers d'instruments. Les élèves se retrouvent dans des situations totalement différentes, où ils doivent lever le nez de leur clavier et de la partition, donc s'intéresser à une communication qui est nouvelle, avec des gestes, avec des codes. Et en effet, je pense que ça les met dans le son d'une manière différente. Je dirais pas que c'est mieux ou moins bien. Comme c'est différent, ça apporte une autre dimension. Et ça vient en complément. Et donc, je pense que les conservatoires en ont besoin, en effet.
Renouveler l'attention ?
Renouveler une autre attention, en effet. J'ai aussi enseigné, par exemple, dans une classe d'art dramatique, conservatoire du Centre, à Paris. Le travail théâtral se nourrit du sound painting de manière totalement différente aussi. Parce que les consignes ne sont pas dites oralement, mais elles sont dites par des gestes. Alors du coup, c'est une transmission orale, mais gestuelle. Et ça se contredit un peu par rapport à ce que j'ai dit, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, à chaque fois, on prend les choses sous un autre angle. Et c'est ça qui apporte une dimension intéressante.
Alors justement, en revenant comme ça à l'histoire des conservatoires, à l'époque, le conservatoire de musique, le conservatoire de danse et le conservatoire dramatique faisaient un, formaient une entité. Et peut-être par le sound painting, c'est une manière de recréer un conservatoire virtuel, retrouver les sources de cette alliance entre les trois composantes artistiques de la scène.
Oui, on pourrait presque construire un conservatoire multidisciplinaire. Peut-être que ça ne doit pas éliminer les trois choses, parce qu'il y a des dimensions spécifiques, en effet. Mais ça rassemble, en effet, ça crée des connexions entre ces arts. Je trouve que c'est beaucoup moins ennuyeux, parce que, sur particulièrement l'enseignement du piano, où les élèves sont tout seuls avec leur piano, tout seuls chez eux, et tout seuls au conservatoire. C'est un peu triste, quand même. Déjà, moi, je jouais l'instrument avant, donc j'ai plus souvent l'occasion d'être en grand groupe, en formation, en ensemble. Mais quand on est danseur, les danseurs travaillent souvent avec soit un accompagnement de piano, soit un enregistrement. De jouer tout d'un coup avec des musiciens en chair et en os à côté d'eux, c'est un plaisir irremplaçable.
Le pianiste ne démonte pas son instrument, donc il voit que les touches noires et blanches. L'avantage de l'instrumentiste avant, souvent, c'est qu'il démonte son instrument et le remonte.
On peut trafiquer, oui, on peut bricoler l'instrument. Oui, oui.
C'est aussi cette notion d'un instrument extérieur et un instrument qui est intérieur.
Pour la danse, c'est sûr qu'il est assez intérieur. En même temps, l'espace qui nous entoure, c'est un instrument aussi, quoi, finalement, pour le danseur. Pour le comédien, c'est un intérieur, le caractère, le texte qu'on a au fond de soi, l'imagination. Mais finalement, c'est ça qui est intéressant quand on passe sans arrêt d'une discipline à l'autre, c'est qu'on trouve des ressources dans une discipline qu'on peut transposer dans une autre, et à ce moment-là, ça fait voir notre propre discipline autrement. Et on s'enrichit mutuellement.
Et en plus, je pensais à cette notion d'espace, un instrumentiste l'un à côté de l'autre. Je pensais une fois, quand j'y allais au Musikverein de Vienne, je me disais, oulala, ils jouent à malheur tous ensemble au Musikverein de Vienne. Quand le contrebassiste essaie de faire un geste avec son bras, il va cogner son copain d'à côté. La scène est petite, donc il y a une jeu d'interrelation. Et en général, dans la musique classique, on a plutôt, comme dans l'entreprise, on essaye de trouver l'ergonomie qui neutralise la présence des uns et des autres, ou ils sont par binôme pour les violons. Et chez vous, là, un musicien est obligé de faire attention à l'autre, il est dans une interrelation avec ça, avec la présence de son collègue. Ce n'est pas qu'un collègue amorphe, mais c'est un collègue qui peut aussi répondre sur le plan du geste, de l'expression, de l'expressivité. Il n'est pas anodin, il devient présent aussi à l'autre.
Oui, mais moi, j'ai pas eu cette malchance de faire partie d'une institution, d'un orchestre, par exemple philharmonique, avec sa hiérarchie, avec sa grille de salaire, ses horaires, ses syndicats, etc. Heureusement, j'ai pas connu ça. Je ne le souhaite pas. Effectivement, dans un ensemble de sound painting, on a tout le tissu des relations humaines qui se joue autrement, qui se joue dans l'interactivité, l'interaction, l'expression. Je ne peux pas choisir des artistes dans mon ensemble en fonction simplement, par exemple, de l'instrument ou de la discipline. Je vais choisir un interprète pour ses qualités d'expression, pour l'univers qu'il a, de manière dominante, de manière majoritaire, à faire passer son univers, son monde intérieur. Je suis intéressé par quelqu'un qui a quelque chose à raconter, finalement. Parce que j'ai pas besoin d'un comédien et d'un trompettiste et d'un violoncelle, mais j'ai besoin d'une certaine façon de faire du théâtre, d'une certaine façon de danser, d'une certaine façon de jouer du violoncelle. Donc, je suis à la recherche de personnes humaines à tous les points de vue, entières, qui ont envie, en plus, d'être en relation avec les autres.
Je pensais à la direction d'orchestre. Ça peut aussi renouveler la manière de diriger une œuvre classique, d'inventer des codes. Le code que les chefs ont est en général assez pauvre. Hein. C'est plus principalement de la battue, de la mesure. Et puis, avec la main gauche, quelques éléments d'expressivité. Mais dans le baroque, on a bien vu un renouvellement dans la gestique de tels chefs. Marc Minkowski, par exemple, citons-le, c'est un chef qui a une gestique bien particulière. Et là, est-ce qu'on ne va pas, par ce chemin-là, renouveler aussi, peut-être, de la direction d'orchestre, la manière d'appréhender le rapport du chef à la qualité, peut-être même inventer le langage du chef d'orchestre.
J'espère vraiment que ça va permettre ça, en effet. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, même très exagéré, de dire que le chef d'orchestre se sert de peu de choses. D'après ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu en voir, il y a quand même des chefs très 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 différents les uns des autres, des chefs qui sont très appréciés pour à la fois leur rigueur, leur précision et en même temps leur expressivité, d'autres qui sont un peu méprisés. Donc il y a certainement une très grande richesse dans ce métier de chef d'orchestre. C'est très différent. On ne peut pas vraiment comparer le sound painter et le chef d'orchestre. Ce n'est pas le même langage et le même but non plus. Je crois que... Mais c'est sûr que les deux choses peuvent s'enrichir mutuellement. Moi, j'ai beaucoup à apprendre des chefs d'orchestre. Je n'ai pas cette formation. Quand je vois un chef d'orchestre, je suis ébahi parce que je découvre chaque jour des astuces, des finesses. Ça se joue parfois vraiment à la position d'un petit doigt dans la main qui permet d'interrompre une note ou de demander une suspension supplémentaire ou un léger effet d'appui, etc. Enfin, ça se joue à des détails comme ça. Pour le sound painter, c'est très 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 précieux de se rendre compte de ça. Mais inversement, en effet, les chefs d'orchestre pourront prendre du sound painting, parce que le sound painting peut apporter, notamment dans toutes les œuvres ouvertes, une mine de possibilités que le chef d'orchestre n'a pas sous la main, précisément. Il est souvent à court quand il est en face de ce genre de situation. C'est là qu'il est à court. Donc on peut s'apporter mutuellement, largement. Oui.
Je pensais à un geste qui est imminent dans le chef d'orchestre, c'est la notion de battue. Il m'a semblé que ce geste-là n'était pas présent chez le sound painter.
Si. Ce matin, non. Si, bien sûr, on est amené à utiliser la battue. Et je pense que là, le problème, c'est qu'effectivement, quand on utilise la battue en tant que sound painter, on est dans la position du chef d'orchestre, et si on n'a pas cette formation, on est un mauvais chef d'orchestre. Donc c'est là qu'on a à apprendre beaucoup. Donc si, parce qu'elle peut être utile, parce que ne serait-ce que parce que dans le sound painting, on peut incorporer à tout moment des choses, des partitions en fait, des bouts de partitions ou des partitions plus grandes. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de savoir la diriger ou de pouvoir la diriger comme un véritable chef d'orchestre, mais passer ensuite d'un langage à l'autre. C'est là la difficulté. Donc ce matin, non, avec les élèves, je n'ai pas eu cette occasion, j'aurais pu.
Comme dernière question, ça rapporte un élément fatigue, comme on dit dans la linguistique, pour dire par exemple « Ah bonjour, ça va ?» Et la musique, ou du moins le sound painter, ou du moins le sound painting, introduit peut-être cela dans la musique contemporaine. Cette chose que l'on n'avait pas, ça veut dire ce contact directement, immédiat, avec l'auditeur, d'essayer d'être présent immédiatement l'auditeur. Ça veut dire presque se rapprocher de l'auditeur.
Alors oui, le sound painting a même une espèce de tradition, on peut dire maintenant. C'est que, pas peut-être toutes les performances, mais dans la plupart des représentations de sound painting, il y a un moment donné, surtout vers la fin du concert, mais bon, on pourrait le mettre ailleurs, où les signes, certains signes sont compréhensibles par le public. Et à ce moment-là, le sound painter se tourne vers le public et lui fait un certain nombre de signes que le public comprend et peut interpréter. Et il y a un échange à ce moment-là entre les artistes sur scène et le public autour du sound painter, du chef, et c'est très convivial et c'est très intéressant. Donc il y a une volonté de se rapprocher du spectateur. En effet, ben oui. Mais même sans cela, je trouve que le fait, en tant que spectateur, de voir un spectacle dont on sait qu'il n'est pas entièrement ficelé d'avance et qu'il se joue en face de nous, qu'il y a un enjeu incroyable, enfin moi, en tant que spectateur, je trouve ça extrêmement jouissif, quoi. De sentir que, ah oui, mais là, ils ne savent pas où ils vont aller, mais c'est extraordinaire, tout est possible alors. Tout est possible. Là, ils vont peut-être aller par là. Ben non, ils ne vont pas. Non, ils préfèrent s'en tenir là. Ben non, ils vont. Mais c'est captivant, ça. Il y a une relation avec le spectateur qui est très forte parce que moi, quand je suis sound painter, je sais que le public se rend compte de cette fragilité, de cet enjeu. Et en tant que spectateur, je vois ça. Je jouis de toutes les possibilités qui sont ouvertes.
Merci.